En ce 5 septembre, à Rencontre spirituelle, je vous ai promis de vous parler de Charles Péguy, qui est décédé un 5 septembre en 1914 en recevant, durant la guerre, la Grande Guerre, au début de la Grande Guerre, une balle en plein front. C'est ainsi que cet homme extraordinaire est mort. Plein de courage. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Charles Péguy, je m'aperçois en consultant les livres de ma bibliothèque que j'ai commencé à les lire, j'avais 15-16 ans. On publiait chez Gallimard à l'époque de petits livres de Charles Péguy comme Les Souvenirs, La France. Et on lisait ça à 15-16-17 ans avec beaucoup de joie. On lisait bien d'autres choses, Charles Péguy aussi. Il est né, Charles Péguy, le 7 janvier 1873. Il est né dans la ville de Jeanne d'Arc, dans l'antique Orléans, écrit-il, sévère et sérieuse. Son père s'appelait Désiré. Quand on y pense, c'est un beau nom, Désiré, c'est un peu curieux. Mais c'est beau, de la part des parents, d'appeler leur fils Désiré. Car nous sommes tous désirés, évidemment, d'abord de Dieu. Mais pour la plupart d'entre nous, j'espère, nous avons été désirés par nos parents. Il était menuisier. Il avait fait la guerre de 1870. Il y avait eu une guerre à Paris. Entre la France et l'Allemagne, d'ailleurs. Il en était revenu malade. Il s'était marié le 8 janvier 1872, 2 ans plus tard. Mais il y avait eu des séquelles de la guerre. Il n'avait pas pu reprendre son métier de menuisier. Il est devenu employé de l'impôt. Et c'est bien tragique, parce que quelques mois plus tard, il est mort. Le 18 novembre 1873, Charles avait à peine 10 mois. Il n'a donc pas connu son père. La mère de Charles Péguy, elle était originaire de Gentine, près de Moulins. Moulins, c'est, disons, à environ 250 kilomètres de Paris. C'est en plein centre de la France, Moulins. Elle avait appris à rempailler les chaises. Vous savez, on rempaillait les chaises. Autrefois, les chaises avaient été faites en paille, hein? Le siège. C'était un bon métier, mais elle travaillait très fort. Hein? Elle gagnait 20 sous pour une chaise ordinaire, 35 sous pour une chaise satinée. Et ça, c'était à la condition de se lever à 4 heures du matin, puis de se coucher un peu avant minuit. Elle ne dormait que 4 heures et demie, cette femme. La grand-mère l'aidait. Le petit Charles Péguy aussi. Il était donc très pauvre. Ils habitaient dans le faubourg Bourgogne d'Orléans. Et il écrit que c'était une maison basse. La fenêtre était encadrée d'une rangée de briques émiettées. Sur le rebord s'alignaient des pots de fleurs lourds où ma grand-mère cultivait soigneusement, fièrement, maternellement, ses fuchsias et ses beaux géraniums rouges. C'est beau des géraniums rouges dans une fenêtre. Et sa mère lui apprend à lire et à compter. C'était vraiment la grande pauvreté. À 7 ans, il entre à l'école. Il se lève à 6 heures pour apprendre ses leçons et faire ses devoirs. Il cire ses sabots, portait des sabots. Vous savez ce que c'est, les enfants, des sabots? Et des chaussures de bois, sculptées. On rentre son pied là-dedans, c'est très dur, hein? J'ai déjà essayé de porter ça juste pour m'amuser en France, comme ça, lors d'un voyage, c'est curieux. Il déjeune d'une grosse tranche de pain trempé dans du café noir, puis il part pour l'école, pas grand-chose à manger. Et pouvait être sûr qu'à l'école, il n'y avait pas de nourriture qu'on leur donnait, comme on donne aujourd'hui aux enfants qui ont faim dans nos écoles. Et Péguy appartient donc à une famille où on est catholique, comme on l'est souvent alors, et même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont baptisés, ils assistent à la messe les jours de grandes fêtes, et puis les enfants vont au catéchisme. Ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui, ici même, et un peu partout dans le monde, du moins en Occident. Ils sont de la paroisse Saint-Aignan, A-I-G-N-A-N, et il aura une dévotion à Saint-Aignan quand il va se convertir, c'est curieux. Il écrit, nos jeunes vicaires nous disaient exactement le contraire de ce que nous disaient nos jeunes élèves maîtres. nous en apercevions pas. La République et l'Église nous distribuaient des enseignements diamétralement opposés. Et nous prenions tout au pied de la lettre. Nous croyons entièrement et également de la même foi ou de la même créance à tout ce qu'il y avait dans la grammaire et à tout ce qu'il y avait dans le catéchisme. Nous n'avons oublié ni l'un ni l'autre, parce que dans la grammaire, évidemment, on charriait des idées de tendance socialiste à l'époque. Ses premiers souvenirs du faubourg Bourgogne, à Orléans, vont remplir toute sa vie. D'ailleurs, il écrit un jour, et c'est très vrai, les psychologues s'entendent là-dessus, « Tout est joué avant que nous ayons 12 ans. » On dit même parfois 5 ans. Et malgré ses études au lycée Lacanal, à l'école Sainte-Barbe, à l'école normale, car il a fait l'école normale, bien qu'il était de milieu très très pauvre, il a fait des études universitaires, quoi. Peggy restera le fils des vieux paysans et des vieux artisans qu'il a connus et aimés. Il écrit un jour, c'est très beau ça, pour les gens qui viennent des milieux très humbles, très simples, « J'ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur et de la même main que ce peuple avait taillé ses cathédrales. » Alors c'était donc l'amour du travail bien fait. Et Peggy, toute sa vie, va garder ça, cet amour-là. Alors, il va fonder un jour les Cahiers de la Quinzaine, hein, c'est une revue. Puis là, il va passer des journées sur la composition, puis il va veiller à la perfection de l'œuvre. Hein, il va travailler comme sa mère, comme un bon ouvrier, des lettres qu'il est. Puis au souvenir de ce qui s'était passé au faubourg Bourgogne, il y avait un grand souvenir. C'était Jeanne d'Arc. Je vous ai dit que c'était la patrie de Jeanne d'Arc. Hein. Car tous les ans, le 29 avril, puis le 8 mai, au moment de la fête de Jeanne d'Arc, l'an dernier, à cette époque-là, je vous ai fait une émission, c'est-à-dire cette année, je vous ai fait une émission sur Jeanne d'Arc qui était bien appréciée parce que j'avais puisé dans les belles choses. Et l'enfant Peggy, donc, tout jeune, le voit entrer dans Orléans à ce moment-là, le jour de fête, par la porte Bourgogne, justement, une Jeanne d'Arc à cheval, entourée de prêtres, de conseillers municipaux et de pompiers. Oui, des pompiers. Elle s'avançait, écrit-il, blanche, droite, le regard au ciel, et moi, je la regardais. C'est une image qui va rester très, très forte chez lui. Donc, il est élève, finalement, de 1885 à 1891 au lycée d'Orléans. Il remporte tous les prix, c'est un élève brillant. Peggy veut faire sa rhétorique supérieure à Lacanal. C'est le moment, ce, de la fameuse grève de Carmaux. Carmaux, c'est dans le Tarn, c'est là qu'il y a des mines de charbon. Et ça avait branlé un peu la France, un peu comme nous, on a eu des grèves comme ça, n'est-ce pas, la grève de l'amiante qui a ébranlé le Québec. Alors Peggy s'enflamme pour les mineurs. Il quête pour eux. Il réussit à se brouiller avec l'administration. Puis, à un moment donné, il devance l'appel à l'armée. Il revient à Orléans pour faire son année de volontariat. Il en sort sergent. Puis en octobre 1893, il entre à l'école Sainte-Barbe. On a un texte des frères Tarot. Vous savez, Jérôme et Jean Tarot, là, ceux qui sont plus âgés, ont déjà lu ces choses-là, mais on disait ça quand j'étais jeune. Ils ont raconté leur promenade interminable dans la cour rose où Peggy, qui était avide de diriger, fait déjà figure de chef d'école. Vous allez voir, il va devenir un meneur. Et son meilleur ami, c'est alors Marcel Beaudoin, dont il va épouser la sœur, Mademoiselle Beaudoin. Et Marcel Beaudoin était un homme assez énigmatique. Lui et sa sœur venaient d'une famille bourgeoise, socialiste, anticléricale, d'origine juive d'ailleurs, par la mère, qui va... Lui, Marcel Beaudoin, va mourir jeune, pendant son service militaire. Mais son influence sur Peggy a été incontestable. Et là, il découvre la beauté du monde. Et Paris, d'abord, avec ses rues, ses maisons, puis ses grands hôtels particuliers, ses palais. Paris qui est vivant, qui souffre, qui travaille, qui aime, qui prie. Paris avec son peuple, des travailleurs, des badauds, des hommes passionnés de justice. C'est un singulier peuple de Paris, écrit-il, peuple de roi et peuple roi. Alors, on voit qu'il aime beaucoup Paris. Il va au Louvre, il va au Théâtre Français. Il entend même Mounet Sully, le fameux acteur de cette époque, dans Polyeucte. Puis il voit jouer Antigone, qui J'espère que vous avez déjà vu Antigone. Quelle pièce extraordinaire, hein? Il écrit « Esprit intraitable qui ne s'est pas cédé devant l'infortune ». C'est ça le personnage d'Antigone, c'est une femme solide. Et ses grandes admirations datent de là. Alors il a beaucoup d'admiration, lui qui vient d'un milieu très très pauvre, s'est cultivé, alors il aime Homère, Sophocle, Corneille, Victor Hugo. Alors, la misère, il l'a connue tout jeune. Il sait que sa grand-mère, comme il l'a écrit, s'était battue toute seule contre la misère. Elle avait même lassé la misère. La misère était fatiguée d'elle. Avec ses 14 sous, écrit-il, qu'elle gagnait à faire la lessive 10 heures par jour. Ça, c'était sa grand-mère, puis sa mère qui travaillait très fort aussi. Il la reconnaît, sa grand-mère, dans les faubourgs de Paris. Une soupe populaire qu'on appelait la mie de pain. Il y avait là l'abbé Batifolle. Ça, c'était un grand personnage, Batifolle, dans l'église à l'époque. Il faudrait qu'un jour je vous en parle. Il était aumônier de Sainte-Barbe. Il avait convié Charles Péguy avec ses camarades à aider les pauvres. Il y avait les conférences de Saint-Vincent-de-Paul qui existent toujours ici à Montréal, mais dans le monde, où son ami qui s'appelait Lotte, L-O-2-T-E, et pas L-O-T-H comme dans la Bible, son ami Lotte l'entraîne aux conférences de Saint-Vincent-de-Paul. Puis en 1894, il entre à l'École normale supérieure. Alors là, c'est au niveau universitaire, donc il a comme maître le bon Olé Laprune, non curieux, mais c'était le... Je me souviens quand j'étais bien ami de Don Jean Gilfil, nous sommes entrés à Saint-Honoré-du-Lac ensemble en 1944, il y a donc 52 ans. Déjà le temps passe. C'est vrai que c'est le 70e anniversaire de mon baptême aujourd'hui. On vieillit, on vieillit. Et Don Jean Gilfil lisait Olé Laprune avec une avidité à 17 ans. Puis il est entré à Saint-Benoît où il est resté. Ça fait donc 52 ans qu'il est là presque. Bon, oui, ça fait 52 ans, le 15 août. Et alors, il y avait là aussi le jeune Romain Rolland, il y avait Bergson comme maître. Puis il y avait un bibliothécaire, Lucien R., qui était dit une espèce de directeur de conscience, très très laïque, de la jeunesse universitaire française. Il a eu une grande influence sur Charles Péguy. L'avenir de Péguy semble donc tout tracé. Il fréquente Jean Jaurès qu'il admire, et après un an d'école, ben, il prend un congé, puis il rentre à Orléans. Mais Péguy n'a plus la foi. Il n'est plus catholique. Ce n'était pas, comme on l'a cru alors, pour faire la révolution, pour devenir empailleur de chaises, que Péguy est rentré dans la maison du faubourg Bourgogne à Orléans, d'où il était originaire. C'était tout simplement qu'il est venu là méditer sur Jeanne d'Arc. Et pour achever aussi un énorme drame qui traîne, il traîne ça partout avec lui dans une valise fermée à clé. Ça va paraître en 1897, sous le simple titre de Jeanne d'Arc. Et pour Péguy, Jeanne d'Arc apparaît comme la parfaite incarnation de la France. Elle est, pour Péguy, le type du héros socialiste. Elle n'obéit qu'à son inspiration, qui lui vient de Dieu. Elle ne tient pas grand compte des autorités régulières, Jeanne d'Arc. Alors, le problème du mal occupe, donc, dans la pensée de Péguy, le premier plan. Il a la passion profonde du salut humain, la justice, et temporelle uniquement, parce qu'il a perdu la foi. Inutile est la charité. Il écrit, la religion du Christ est une religion du désespoir, parce qu'elle désespère de la vie, et n'espère qu'en l'éternité. Or, nous sommes à ce moment-là, en 1897, et il faudra attendre 13 années pour entendre Péguy nous parler à nouveau de Jeanne d'Arc, mais alors Péguy sera redevenu chrétien. Et ce sera l'admirable mystère de la charité de Jeanne d'Arc, que j'ai eu la chance d'aller voir à Paris, il y a quelques années, invité par Don Claude Jean-Lémy de l'abbaye de la Pierre-Quivire, qui avait deux billets. Il m'avait téléphoné à mon hôtel pour m'inviter, et j'avais passé une soirée superbe à revoir cette grand drame de Jean Péguy. Alors, il est rentré en 1896 à l'École normale, après la mort de son ami, Marcel Baudouin, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont il a épousé la sœur. Et Péguy ne devait... Il restait à l'École normale que peu de temps. Il se marie, donc il fonde une librairie socialiste. Il publie Marcel, premier dialogue de la cité harmonieuse, en souvenir de son ami, où il cherche, au problème du mal, une solution toute humaine. Plein de gens ici au Québec cherchent une solution humaine au problème du mal. Ils ne se rendent pas compte qu'il faudrait réunir le cœur des Québécois au cœur de Dieu. Et sous l'influence de Lucien R., le bibliothécaire, là, Peggy s'est inscrit au Parti socialiste pendant sa première année d'école normale. Tout était pur alors. Tout était jeune. Un socialisme jeune, un peu grave, un peu enfant. C'est comme ça qu'écrit Peggy de cette jeunesse-là. Il est évident que jamais Peggy n'a été pris au sérieux par Jean Jaurès. Son socialisme, c'est d'abord de ramener le bonheur dans le monde. Et pour cela, il veut restaurer le goût du travail puis de la pauvreté aussi. C'est un socialisme à la façon de Saint-François, disait-on de Charles Peggy. Et la doctrine importe peu, si on a un élan du cœur, si on sait se sacrifier pour les autres, être sincère. Et ainsi entendu, bien, le socialisme de Charles Peggy, parce que ce serait autre chose que la charité, il écrivait « La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles point charité les unes des autres ?» Ce socialisme de Charles Peggy, bien, il va être mis à rude épreuve, à un moment donné, par l'affaire Dreyfus. Vous connaissez presque tous, j'imagine, l'affaire Dreyfus. C'est une affaire autour d'un juif, Dreyfus, qui a été maltraité dans l'armée. Ça commence vraiment en janvier 1898, avec quelqu'un qui prend sa défense, Émile Zola, dans un article intitulé « J'accuse ». Peggy se lance dans la bataille, il est arrêté à Versailles, il mène le combat à la Sorbonne, puis il met tout le quartier latin, le quartier des étudiants, en état de défense républicaine. Il écrit « R commandait les forces républicaines les jours où on ne se battait pas. Je les commandais les jours où on se battait. » Et Peggy ajoute « Il faut dire simplement que nous avons été des héros, plus précisément des héros à la française. » Bon, il est jeune, enthousiaste. Il faut bien dire, puis Peggy ne dirait certainement pas le contraire s'il entendait cette émission, il entend peut-être, il est au ciel. Je suis sûr qu'il est au ciel. Il faut bien dire que dans les troupes qui défendaient Dreyfus, tout n'est pas absolument pur, et à côté des chrétiens puis des utopistes, des rêveurs, il y a les révolutionnaires, les adversaires du régime quel qu'il soit, les anarchistes, les agents de l'étranger aussi, qui sont ravis de voir les Français se déchirer les uns les autres. Hein. On en sait quelque chose ici au Québec, il y a des mouvements qui semblent vouloir troubler notre révolution, comme peuple ici. Mais les profiteurs, il y a les habiles aussi, qui sont toujours prêts à tirer parti d'une bataille, à s'enrichir des dépouilles des vaincus. Alors Peggy, ce poète Peggy, il s'en aperçoit pas tout de suite, lui. Le parti des utopistes est un rêveur. Il s'en explique d'ailleurs, et son explication, c'est celle d'un chrétien, plus que d'un socialiste. Pourtant, il se dit athée. Il écrit « Un seul déshonneur suffit à perdre l'honneur, à déshonorer tout un peuple. Nous ne nous placions pas moins qu'au point de vue du salut éternel de la France. Tout au fond, nous ne voulions pas que la France fût constituée en état de péché mortel. » Son vocabulaire du catéchisme de son enfance revient à la surface. Et le 5 janvier 1900, bien, Peggy lance les cahiers de la quinzaine. Puis à l'automne 1901, il s'installe rue de la Sorbonne. La troisième série des cahiers de la quinzaine allait paraître. Et les frères Tarot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, des écrivains, nous ont décrit minutieusement la boutique. Il y avait des ballots de livres qui étaient vendus. Il y avait les conversations du jeudi. Il y avait l'arrière-boutique où travaillait Peggy. Mais Peggy a rompu avec le bibliothécaire R, avec Jean Jaurès aussi, qui a réussi à mettre sur pied le journal L'Humanité, le journal dont Peggy a rêvé lui-même, mais pour lequel il avait enquêté. Ce journal L'Humanité, qui est aujourd'hui le journal du Parti communiste en France. Jean Jaurès ne sera plus pour Peggy, lui, qu'un épais affabulateur. d'un jugement sévère que Peggy porte sur Jean Jaurès. Que s'est-il donc passé? Mais si que Peggy voit venir la guerre, elle ne lui fait pas peur. Parce qu'elle va replacer, croit-il, la France vaincue, découragée, sans âme, sur les sommets d'où l'ont précipité les intellectuels, puis l'argent, les intellectuels, c'est qui ça? Pour lui, c'est d'abord la Sorbonne, l'Université de Paris, quoi. Et, cher Peggy, un vieux compte à régler avec la Sorbonne. Elle représente pour lui le monde moderne contre lequel il crie. Il écrit d'ailleurs, le monde moderne avili. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, hein? Le monde moderne avili. Il avilit la cité, c'est-à-dire la ville, la communauté des hommes. Il avilit la cité, il avilit l'homme, il avilit l'amour, il avilit la femme. Le monde moderne a réussi à avilir ce qu'il y a peut-être de plus difficile à avilir au monde, parce que c'est quelque chose qui a en soi une sorte particulière de dignité, il avilit la mort. Et à côté de la Sorbonne, puis avec elle, bien, l'argent est le grand corrupteur aussi, pour Charles Peggy, symbole du monde moderne. L'argent est aussi le roi et le dieu. Il écrit seul, vous le savez, que l'argent seul est maître et qu'il a mis son trône à la place de Dieu. Alors Peggy y est revenu plusieurs fois. L'affaire lui tient à cœur et Léon Blois, fameux Léon Blois, va même plus loin. Quand on donne aux gamins des écoles primaires des livrets de caisse d'épargne, on a bien raison, car on leur donne un bréviaire du monde moderne, c'est-à-dire un brevet d'avarice et de vénalité dans l'ordre du cœur. Et on a bien raison de le présenter avec tant de cérémonie, comme un symbole, et comme un couronnement, et comme un coffret de la loi. De même que les évangiles sont un ramassement total de la pensée chrétienne, eh bien, de même, le livret de caisse d'épargne est le livre et le total ramassement de la pensée moderne. Lui seul est assez fort pour tenir le coup aux évangiles parce qu'il est le livre de l'argent qui est l'antéchrist. Il n'y a pas de main morte. Mais tout peut encore être sauvé. Alors Peggy, le prophète Peggy, le fils des paysans de la loi, de la rempailleuse de chaises du faubourg Bourgogne à Orléans, ben, il a retrouvé la véritable tradition française. Puis ça, c'est un grand pas qui est fait sur la voie du salut. Et le 3 janvier 1913, Alain Fournier, dont je vous ai déjà parlé, écrivait à Jacques Rivière, dont je vous ai parlé aussi, il écrivait au sujet de Peggy. C'est très beau ça. Je dis, sachant ce que je dis, qu'il n'y a pas eu, sans doute depuis Dostoïevski, un homme qui soit aussi clairement homme de Dieu que Charles Peggy. Homme de Dieu, bien, qu'est-ce à dire? Semble que personne comme Peggy, à ce moment-là, n'a connu la misère de l'homme et ne s'en est approché avec une telle charité. Mais alors Dieu entre en scène, la grâce de Dieu, c'est par un récit de ce fidèle ami Lot, là, que nous entendons Peggy dire pour la première fois qu'il est chrétien. C'est en 1908. Lot a trouvé son ami, Charles Peggy, couché, malade. Il a soif de repos. Il pense à abandonner les cahiers de la quinzaine et à demander un poste de professeur de philosophie en province. Et soudain, se dressant sur son lit, il ajoute les yeux remplis de larmes. « Oh, je ne t'ai pas tout dit. J'ai retrouvé la foi. Je suis catholique. » Et Lot d'ajouter, et ce n'est pas le moins émouvant, ce fut soudain comme une grande émotion d'amour. Mon cœur se fondit et la tête dans les mains, je lui dis presque malgré moi, « Ah, pauvre vieux, nous en sommes tous là. » Et Henri Bergson, dont la philosophie avait débarrassé Peggy de tant d'entraves, a écrit « Cette figure avait été taillée dans l'étoffe dont Dieu se sert pour faire des héros et des saints. Les saints, parce qu'ils partageaient avec eux la conviction qu'il n'y a pas d'acte insignifiant, et que toute action humaine est grave et retentit dans le monde moral tout entier. Tôt ou tard, il devait venir à celui, à Dieu, qui prit à son compte les péchés et les souffrances de tout le genre humain. » Voilà ce que Bergson disait de Charles Peggy. Nous avons vu que Charles Peggy vient de se convertir. Il est passé d'un athéisme socialiste à un enthousiasme chrétien, catholique. Mais ce n'est pas vraiment une conversion, c'est un retour à la foi son enfance. D'ailleurs, c'est Paul Claudel qui ne veut pas qu'on parle à propos de Peggy de conversion. Peggy lui-même, d'ailleurs, dans Un nouveau théologien, paru en 1911, écrivait, c'est très important ça, c'est par un approfondissement constant de notre cœur dans la même voie, V-O-I-E, ce n'est nullement par un rebroussement que nous avons trouvé la voie de chrétienté. Nous ne l'avons pas trouvé en revenant, nous l'avons trouvé au but. En somme, c'est dans un cheminement, et la perte de la foi devient comme un chemin qui mène dans ce dépouillement tragique vers la plénitude. Un verre vide a besoin d'être plein à un moment donné pour rassasier. Daniel Ropps va dire de même, Peggy est revenu au christianisme par fidélité à lui-même, à sa famille, à sa race, à son langage, à la mission historique de sa patrie. La mission historique du Québec, quelle est-elle? Daniel Ropps continue, parce que dans la religion seule, il trouvait l'apaisement au grand tourment qui le hantait quand il songeait au mal et à notre commune complicité avec la faute. Le croyant ajoutera ici, parce que son courage, sa pauvreté, sa vie entière avait mérité que Dieu l'appelât. C'est très beau ce texte de Daniel Ropps. Alors Charles Peggy, nous l'avons vu, il est catholique, il a aimé l'Église, il a été au catéchisme comme à l'école, un élève appliqué, de premier. Depuis, il est resté un esprit saint, un esprit pur, honnête, pudique, moral. À une époque, on l'était si peu. Quand a-t-il perdu la foi? Est-ce à la Canale où il étudiait, ou à l'école Sainte-Barbe, quand il avait 17 ans à peu près? Ce qu'on sait, c'est qu'à 25 ans, il se déclare un croyant, quelqu'un. Mais à 27, il s'est remis à lire Pascal, Blaise Pascal, les pensées. Pourtant, il n'admettait pas les consolations de l'espérance religieuse. Il aimait mieux, dit-il, une inquiétude et une épouvante sincère. Parce que ce qu'il reproche alors au catholicisme, c'est d'être pour beaucoup une contrefaçon, une malfaçon de la vie. Parce que le catholicisme, c'est pas une espèce de repos assis dans un banc d'église. À se plaindre que ce que des malades, des itinérants, prennent place dans les derniers bancs, où ils ronflent, où ils gémissent. C'est au contraire le désir de s'en approcher, de les aider, de les adopter. Pourquoi pas? J'en ai adopté un, ça a duré 23 ans, c'est tragique, la mort est devenue la fauchée. Mais pourquoi pas le faire? C'est le Christ qui nous le fait faire. On le fait comme si ce n'était pas nous qui le faisions. C'est très étrange. Au même moment où il change, Charles Peggy pense à son ami Baillet, qui est devenu bénédictin à Solesmes, la grande abbaye de Solesmes. Et il avoue, si j'étais resté catholique, sans doute je serais devenu prêtre avec lui. Il ne se serait pas marié, n'est-ce pas? Il n'est pas anticlérical dans son athéisme. Il n'est même pas antireligieux. Il proteste même contre ceux qui persécutent l'Église, ceux qui sont contre la métaphysique. La vraie métaphysique. Il proteste contre Combes et Viviani qui prétend avoir éteint dans le ciel les lumières qu'on ne rallumera plus. Il écrit d'ailleurs en 1902, au grand moment tragique où les communautés françaises sont chassées de France, il écrit à son ami Baillet, le moine de Solesmes, que quand les moines de Solesmes sont expulsés de leur couvent, dites-vous, catholiques, réjouissez-vous, les persécutions des radicaux préparent incontestablement une renaissance de la foi catholique en France. Et dès l'affaire Dreyfus, dont je vous ai parlé, il a pris position pour le spirituel et contre la tyrannie, d'où qu'elle vienne, il s'indigne De tout l'établissement des fiches dans l'université, des parodies sacrilèges et ridicules du culte catholique, comme on le fait ici au Québec, dans des clubs, dans des associations, même à la télévision, j'ai vu des parodies du pape, parodies de la messe, parodies de la passion de notre Seigneur. Je ne les nommerai pas les groupes qui font ça, mais qui ont fait ça. J'espère que ça va cesser à notre télévision. On en a marre de ces choses-là. Moi, j'en ai marre de ces parodies des choses qui sont au cœur de la grande majorité des Québécois, comme des choses valables. Qu'a-t-on à se moquer de ce à quoi nous croyons profondément, et qui, de toute façon, sont des moments très beaux de l'histoire de l'humanité? Et là, c'est l'époque où son ami, dont Bayet, bénédictin, dit chaque matin la messe à son intention. Il était chrétien par le cœur, alors que son intelligence se refusait à adhérer au dogme. On écrit ça de Charles Péguy. Il y a de la misère à adhérer au dogme catholique. Et en 1902, le cahier de Noël, des cahiers de la quinzaine, s'ouvre sur une balade de Villon à Notre-Dame. À partir de 1905, Charles Péguy n'écrit plus, presque plus dans les cahiers. Il s'en explique et dit « Je ne veux pas entraîner mes lecteurs dans cet approfondissement de mon être religieux auquel il est évident que je procède depuis plusieurs années. » Il se convertit lentement, c'est-à-dire qu'il retourne lentement à ce qu'il est vraiment. Et le ton lui-même change, les mots aussi. Et commentant un jour un vers de Vigny, hein, Vigny qui a écrit ce vers terrible, « Gémir, pleurer, prier est également lâche. » Or, qu'est-ce que Charles Péguy dit de ça? Il dit, prier est d'un autre ordre que les des autres mots. Il a bien raison, hein? Pas la même chose. Parlant un jour avec Daniel à Lévis, il déclare, pour nous, l'imitation que Jésus-Christ se livre est un livre saint. Il n'est pas converti encore. Il est tout prêt. En 1907, 1908, 1909, il travaille un livre Clio, qui paraîtra après sa mort, et où il étudie la mystique liaison du temporel et de l'éternel, du héros et du saint. Il y a une liaison entre le héros et le saint. Il y a une liaison aussi entre le pécheur et le saint. Car le pécheur sent au fond de son péché le besoin tout à coup de remplir son âme d'une présence qui seule peut le combler et qui est la présence de Dieu. Et enfin, le 11 janvier 1910, il publie « Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc » que j'ai vu à Paris quand je vous ai dit. Péguy n'a jamais cessé d'avoir une âme de chrétien. Athée, d'accord, c'est entendu, mais avec des flambées de charité, avec des éclairs d'espérance. Je suis tout à fait d'accord. Un de mes meilleurs amis est athée. Il a une âme de chrétien, bien meilleure que celle de bien de mes amis chrétiens. Même quand il proclame Péguy son esprit laïque, mais cet esprit ne s'oppose pas à la foi chrétienne. Il reconnaît que son action au moment de l'affaire Dreyfus a été chrétienne, il le dit, et que son action a été mue uniquement par la charité. Il a échoué à peu près sur tous les plans, puis il dit à son ami Lot, la vie... C'est très beau ça. La vie ne peut plus nous apparaître que comme une farce sinistre. Et l'on tombe dans le désespoir. Ou bien comme une lutte héroïque. Et alors, l'on tend les bras vers Dieu. Ben oui. La vie, c'est quoi? C'est pas une farce sinistre. Où l'on tombe dans le désespoir. On brûle finalement notre corps pour disperser les cendres aux quatre vents, puis il n'y a plus rien. Mais non. Il le dit bien, c'est une lutte héroïque, et alors on tend les bras vers Dieu. C'est ça qu'on fait à la messe. Ben oui. Et Péguy est donc enfin chrétien, il n'est plus triste. Il ne parle plus de mourir. Il dit à son ami Lot, songe donc à ce que c'est qu'un signe de croix. Se couvrir d'un signe de croix. Quelle communion avec Jésus. Et alors commence l'époque heureuse. Littérairement parlant là, où il produit le plus, il pense le plus. Vous savez que dans les éditions de la Pléiade, ces merveilleuses éditions de la Pléiade de Gallimard, il y a trois gros volumes des œuvres de Charles Péguy. Dans les œuvres poétiques complètes, c'est énorme. Je les ai devant moi, c'est 1400 pages et plus. 1400 pages sur papier Bible. Et dans les deux autres volumes, et qui sont les œuvres en prose, 1898-1908 et ensuite 1909-1914, d'après sa conversion, c'est énorme, 1909-1914, c'est encore considérable. C'est 1500 pages, le premier tome, puis l'autre, 1600. Énorme, considérable. On ne peut pas tout lire ça, c'est trop. Mais que de belles choses. Une épreuve sentimentale, Lacan, il va sortir vainqueur de ça. Une jeune fille qui l'admire, elle vient souvent au cahier de la quinzaine, et pour Péguy, c'est une amitié précieuse. C'est la communion parfaite d'âme. C'est un amour impossible, il est déjà marié. Et là, à moins de déchoir et de détruire son foyer, des enfants, et de renoncer à sa vie religieuse, qui, de plus en plus, le soutient, c'est une vie religieuse non pratiquante, parce qu'il n'est pas marié dans l'église, il hésite à aller à la messe. Alors il décide, alors son ami, qu'il aime beaucoup, à se marier avec quelqu'un d'autre. Il veut être seul vis-à-vis du troublant mystère de la douleur. Il écrit d'ailleurs à son ami Madame Favre, avec laquelle il a échangé de belles lettres, « J'aime mieux être malade que de manquer à ma vocation par un dérèglement du cœur. » Que de gens pensent pas comme ça aujourd'hui. Quelle fidélité admirable chez quelqu'un qui ne pratique même pas la religion catholique parce qu'il n'est pas marié catholiquement. C'était la coutume à l'époque. Il refuse de partir avec une autre femme qu'il aime et qu'il l'aime. Il évoque cette douleur dans cette résolution qu'il a prise dans ce beau texte, Tapisserie de Notre-Dame, il dit, quand il fallut s'asseoir à la croix des deux routes et choisir le regret d'avec le remords, vous seul, vous savez, maîtresse du secret, que l'un des deux chemins allait en contrebas, le chemin où il serait parti avec cette femme, ça allait en contrebas, il dit, vous connaissez celui que choisir nos pas. On a choisi de monter. Et c'est à ce moment qu'écrasé par les soucis matériels et de famille, Péguy, sans espérance, écrit un bel hymne à l'espérance. C'est intitulé « Le porche du mystère de la deuxième vertu ». On lisait ça quand j'étais jeune, on était ravis de lire ça. Il a publié ça en octobre 1911. Et vous vous souvenez de ce passage, j'espère. « La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. » Il écrit aussi « Les saints innocents » en mars 1912. C'est la suite logique du porche du mystère de la deuxième vertu. « Je suis, dit Dieu, maître des trois vertus. La foi est une épouse fidèle. La charité est une mère ardente. Mais l'espérance est une toute petite fille. » Or, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, le bûcheron qui craint pour la santé de ses enfants, et n'en pouvant plus, les remet sous la garde de la Sainte Vierge. Il dit « Prenez-les. Je vous les donne. Faites-en ce que vous voudrez, j'en ai assez. » C'est une belle prière pour des parents désespérés. Moi, j'ai déjà fait cette prière quand j'étais désespéré de mon fils. « Prenez-le, Seigneur, je vous le donne. Faites-en ce que vous voudrez, je ne peux plus. » Et voici qu'en juin 1912, le fils de Péguy, Pierre, tombe gravement malade et Péguy fait un deuil et va en pèlerinage à Chartres. Il écrit « J'ai senti que c'était grave. » J'ai fait un pèlerinage à Chartres. J'ai fait 144 kilomètres en 3 jours. On voit le clocher de Chartres, 17 kilomètres sur la plaine. Et dès que je l'ai vu, ça a été une extase. Je ne sentais plus rien, ni la fatigue, ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. J'étais un autre homme. J'ai prié une heure dans la cathédrale le samedi soir. J'ai prié une heure le dimanche matin avant la grand-messe. Oh, j'ai prié, mon vieux, comme jamais je n'ai prié. J'ai pu prier même pour mes ennemis. Mon gosse est sauvé. Je les ai donnés tous trois à Notre-Dame, mes trois enfants. Moi, je ne peux pas
M'occuper de tout. Mes petits ne sont pas baptisés. »
À la Sainte Vierge de s'en occuper. Et désormais, sa foi est assurée. Il le proclame dans un ouvrage « L'argent ». Nous ne croyons plus un mot de ce que nous enseignaient nos maîtres laïcs. Nous ne croyons pas seulement, nous sommes intégralement nourris de ce qu'il y a dans le catéchisme catholique. Nous croyons intégralement ce qu'il y a dans le catéchisme et c'est devenu et c'est resté notre chair. Et dans « Prière de résidence à Notre-Dame », il déclare, en reniant tout son passé, enfin presque tout, « Mon Dieu, nous n'avons plus d'autel que ceux qui sont les vôtres. » Et à Chartres, devant la flèche irréprochable et qui ne peut faillir, écrit-il, il a retrouvé l'espérance, puis il a confirmé définitivement sa foi. Si Dieu t'appelle, a écrit Peggy à la suite du mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui a été publié finalement en 1926, si Dieu a des intentions sur toi, jamais tu ne retrouveras le repos. Moi, j'ajouterais que Dieu a des intentions sur nous tous. Mais oui, Dieu a des intentions sur chacun de nous. Et jamais nous ne trouverons le repos tant que nous ne répondrons pas à l'appel de Dieu. Peggy n'a pas retrouvé le repos avec la foi. L'inquiétude est demeurée. Mais Sainte Jeanne d'Arc le conduisait, et comme elle, il ne veut connaître que quoi que le credo. Il catéchise de son enfance. Il prétend pas être un père de l'Église, il dit c'est déjà beaucoup d'en être le fils. Il ne peut pas être le père de l'Église, mais être le fils de l'Église. C'est si sympathique. Il dit rien n'est aussi simple que la parole de Dieu. Il ne nous dit que des choses fort ordinaires, Dieu. Très ordinaires. L'incarnation, le salut, la rédemption, la parole de Dieu, trois ou quatre mystères, la prière et les sept sacrements. Mais cependant, comme je vous ai dit, Peggy n'est pas mariée. Sa femme ne veut pas se faire baptiser. Elle refuse de suivre Peggy dans son évolution religieuse. Or, Peggy ne veut pas se sauver seule. Il dit, il faut se sauver ensemble. Il écrit d'ailleurs dans le mystère de la charité, mais ça dans la bouche d'Oviette. Il faut se sauver ensemble. Il faut arriver ensemble chez le bon Dieu. Il faut se présenter ensemble. Il ne faut pas arriver, trouver le bon Dieu, les uns sans les autres. Il faudra revenir tous ensemble dans la maison de notre Père. Et c'est là le secret et le problème. Et c'est donc cette situation matrimoniale de Peggy qui l'empêche de s'approcher des sacrements. Sa femme refuse le baptême et le mariage religieux, mais elle acceptera le baptême un an après la mort de son mari, cette juive. Bien oui. Alors il récite des Ave Maria, beaucoup. Or, c'est curieux, il semble bien que malgré la privation de vie sacramentelle, Dieu l'a comblé de ses grâces. Il dit « Je suis un pécheur, mais un pécheur qui a des trésors de grâce et un ange gardien épatant. » C'est sympathique. Ah, les moralistes, les protestants, les jansénistes, ils n'y comprennent rien. Et ailleurs, il écrit « On ne s'imagine pas ce que Sainte Geneviève, Saint Aignan, Saint Louis, Jeanne d'Arc font pour moi et ce qu'ils obtiennent. Hein? » Dévotion au saint. La seule fois qu'il entend la messe, finalement, c'est le 15 août 1914, trois semaines à peine avant sa mort, dans une église du front où il combat. On n'est pas sûr s'il y a communié, on ne sait pas. Mais qui osera le juger? C'est le cardinal Jean Verdier qui disait, en préfaçant un recueil de ses pensées, en lisant Peggy, on a la ferme espérance que Dieu a exaucé cette âme. De 1910 à 1914, l'œuvre de Peggy est considérable. C'est la plus considérable, écrit Lott, qu'il ait été produit en catholicité depuis le 14e siècle. Il a publié en 1910 Victor-Marie Contigo, en 1911 Un nouveau théologien. Je l'ai ici devant moi, c'est au sujet de Fernand Laudet. Le porche du mystère de la deuxième vertu, en 1912, le mystère des saints innocents, les tapisseries de Sainte Geneviève et de Jeanne d'Arc, et en 1913, l'argent suite, tapisserie de Notre-Dame, Ève, etc. Et donc, il écrit tellement de belles choses. Ah, c'est fantastique. Et le 4 septembre, Peggy arrive finalement avec sa compagnie à Montmélian, près de Saint-Vitz.
il y a la vieille chapelle, avec une statue ancienne de la Vierge. Peggy et ses soldats ont déposé des fleurs au pied de la statue. Peggy l'a prié longuement. C'est là que l'ordre de Joffre, le grand général Joffre, de passer à l'offensive arrive le lendemain. Et alors tout change. Il n'y a plus de traînards. Il n'y a plus qu'une armée qui va se battre. Et qui sait quel est l'enjeu de la bataille? C'est la fameuse bataille de la Marne. On marche en direction de Meaux, en Seine-et-Marne, et à Nantouillet, le sergent Victor Boudon voit Peggy assis sur une pierre en plein soleil, blanc de la poussière du chemin, inondé de sueur, la barbe broussailleuse, les yeux pétillants derrière son lorgnon, qui relie avec des larmes de joie dans les yeux une lettre des siens reçue la veille. Un lorgnon, les jeunes savent seulement ce que c'est simplement une lunette unique qu'on met sous la paupière et qui se retient par les plis de la peau. Hein. Un lorgnon. La 19e donc se déploie sous la direction de Villeroy. Et à 4h30, l'attaque se déclenche et on tire sur les Allemands à 500 mètres. Les Allemands battent en retraite. Peggy, les jumelles à la main, les regarde qui s'enfuient. Les officiers tombent autour de lui. On lui crie « Peggy, couchez-vous !» Mais toujours debout, Peggy hurle ses commandements. À ce moment, il tombe, frappé en plein front, sans un cri. C'était la veille de la bataille de la Marne. Suicide? Il y en a qui se sont écriés ça, mais pas du tout. C'est un sacrifice consenti sans doute, c'est une mort de chevalier sans reproche. Mort debout, comme on a su mourir pendant des siècles. Mort que Peggy a envié et mérité. Mort enfin qu'il a chanté dans les strophes immortelles d'Ève, quatrième cahier de la 15e série. Voici le texte. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles. Couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Je suis étroitement inspiré d'un texte d'Abel Moreau, un auteur important.